Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Davy Riemann, député de Guyane, président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Davy Riemann, avec votre collègue Philippe Gosselin, vous publiez un rapport parlementaire sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Plusieurs territoires d'Outre-mer ont récemment connu et connaissent encore des crises nourries par un sentiment d'injustice. Pourquoi était-il nécessaire de faire aujourd'hui un état des lieux ?
Écoutez, la décision a été prise au niveau de la délégation aux Outre-mer au mois d'octobre 2023, parce qu'on s'est rendu compte en discutant, en échangeant avec un peu tout le monde, qu'il y avait des disparités, des velléités d'évoluer institutionnellement pour certains, pour d'autres statutairement. Donc, il y en a vu qu'à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas vraiment de cartographie exhaustive en la matière. Donc, nous avons décidé de lancer cette mission-là. Et quelques semaines après, le président Macron décidait qu'il fallait effectivement voir qui voulait, qu'il n'était pas un sujet tabou pour lui, qu'on pouvait discuter de cela. Donc, étant donné que nous avons déjà pris la décision, nous avons lancé la démarche pour effectivement savoir territoire par territoire quelles étaient les réalités, quelles étaient les velléités, quelles étaient les différences pour comprendre, pour savoir et surtout pour proposer in fine.
Alors, vous écrivez dans ce rapport que les inégalités peuvent pousser vers l'indépendance, de même que le sentiment d'être moins bien traité que le citoyen français moyen. Est-ce que cette question d'un traitement inégalitaire est seulement un ressenti, ou bien y a-t-il objectivement des faits qui montrent que ces territoires sont moins bien traités que d'autres départements de métropole ? Vous avez rencontré de très nombreuses personnes et surtout, vous êtes allé sur place.
Oui, écoutez, au départ, on pourrait penser que c'est un ressenti ou certains, comme certains le qualifient ici, ce sont un peu des caprices des personnes qui résident là-bas à ce niveau-là. Sauf que non, de façon factuelle, on le voit au niveau des budgets qui passent année après année, et quel que soit le gouvernement en place. Hein. On le voit au niveau des infrastructures qui sont sous-développées par rapport au territoire hexagonal. On le voit aussi au niveau l'accès aux services publics, qui est extrêmement compliqué selon le territoire. On le voit aussi au niveau de l'accès à l'eau potable, accès à l'électricité, en fait, accès à la santé. Je rappelle que les plus grands déserts médicaux sont dans nos territoires. Donc, de façon factuelle, on voit que les politiques publiques de l'État, depuis un certain nombre de temps, n'ont jamais permis de répondre aux défis, aux réalités des différents territoires concernés. Donc derrière, on se dit, mais pourquoi ? Tout simplement parce que dès le départ, ça c'est mon analyse, hein, dès le départ, on voit que nos territoires ont toujours été gérés à part, différemment, en périphérie, vous voyez ? Et ça, c'est depuis les fondements intrinsèques même de l'État, de la République, surtout sur la Ve République. Pour autant, je tiens à dire, et là vous avez raison, il y a des territoires dans l'Hexagone qui sont aussi en difficulté, qui sont aussi des déserts médicaux. Mais j'aime souvent dire que les territoires dits d'outre-mer sont simplement une loupe grossissante des réalités que vivent certains Français et certaines Françaises dans l'Hexagone. Parce que oui, effectivement, ici aussi, il y a la précarité, il y a la pauvreté, il y a les difficultés d'accès à un logement, il y a toutes ces réalités-là que nous traversons aussi dans nos territoires.
Davy Riemann, quand on parle de désert médical dans les territoires d'outre-mer, cela signifie parfois qu'il faut envoyer des malades en métropole, donc faire des milliers de kilomètres pour pouvoir être opéré, ce que ne vivent tout de même pas les Français de métropole.
Tout à fait, il y a une différence non négligeable. Par exemple, il y a des CHU, il y a des centres de santé disséminés un peu sur le territoire hexagonal qui permettent que les gens n'aient pas des milliers de kilomètres à faire ou des plusieurs heures d'avion à faire pour se faire soigner. Et ça, tant au niveau, j'ai envie de dire, de l'hôpital public qu'au niveau des spécialités médicales. Il faut savoir, je vous donnerai un chiffre par exemple, que pour la Guyane, c'est 4000 évacuations sanitaires par an. Il faut bien mesurer le nombre d'évacuations sanitaires qu'il y a à l'échelle de nos territoires. Il y a deux territoires très fortement touchés par ça, donc par exemple, la Guyane, Mayotte, par rapport à nos déserts médicaux. Donc il est, pour la Guyane, par exemple, les évacuations sanitaires se font soit vers la Martinique ou l'Hexagone. Donc on voit bien que l'accès à la santé, les choses les plus basiques, c'est extrêmement compliqué. D'ici l'année prochaine, avec les départs en retraite qui sont annoncés au niveau de la médecine générale, je rappelle que les médecins généraux font partie des pierres angulaires de notre système de santé, ben, aujourd'hui, on va arriver à un niveau, on aura moins de 100 médecins pour le généraliste pour tout le territoire guyanais. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une crise majeure, parce que un certain nombre de choses qui auraient dû être anticipées, qui auraient dû être prévues, ne l'ont pas hésité parce que, de façon répétitive, de façon automatique, il n'y a pas de prise en compte de nos réalités dans l'exercice des institutions de l'État au niveau de l'Hexagone.
Est-ce que les causes de ce malaise peuvent s'expliquer par l'inadaptation des institutions ?
Si on grossit un peu le trait, j'ai envie de dire que les institutions répondent déjà de facto aux aspirations, aux réalités des Françaises et des Français, même à l'échelle de l'Hexagone. On voit bien les turpitudes, on voit bien les difficultés, donc j'ai l'impression de vous dire non. Parce qu'on est toujours sur des jeux politiques à différents niveaux, mais qui ne prennent pas en compte les réalités des Françaises et des Français. Donc, par fortiori, lorsque vous vous éloignez à des milliers de kilomètres, ben, automatiquement, la réponse est très claire. Non, parce que nos réalités, au moment de l'élaboration des lois, au moment de la politique publique qui est établie, ne sont pas prises en compte. Vous savez, le rapport de la Cour des comptes en 2022 disait très clairement que l'État n'a eu aucun regard stratégique par rapport au territoire des Outre-mer. Donc ça veut bien dire que depuis un certain nombre de temps, depuis la mise en œuvre de ces politiques publiques, ça ne fonctionne pas. C'est, au contraire, c'est en deçà de ce qui aurait dû être comme standard dans nos territoires par rapport à l'Hexagone. Donc la réponse est très claire et c'est non.
Alors, il y a des spécificités différentes selon les territoires. Vous avez évoqué notamment la situation de Mayotte, qui vote en grande majorité pour le Rassemblement national, un territoire qui est marqué par une forte immigration illégale. Que préconisez-vous pour un territoire comme Mayotte ?
Mais justement, c'est bien que vous fassiez cet exemple, dans la mesure où, là, on voit Mayotte, qui est un département français, donc de l'article 73 de la Constitution, comme la Guyane, au même article, même si nous avons des institutions différentes. Mayotte est un département, nous avons une collectivité unie. Mais il faut savoir que ces deux territoires-là ont des similitudes, même si le fond est différent, mais des similitudes en matière de vagues migratoires. Le point commun entre ces deux situations, c'est la non-gestion de l'État sur le sujet. En gros, on a des flux migratoires qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas gérés. C'est-à-dire que des personnes se retrouvent sur nos territoires, elles ont besoin de vivre ou même de survivre par rapport à la réalité, de boire, de manger. Et qu'est-ce qui se passe ? On a le développement de bidonvilles, donc d'habitats spontanés qui se développent sur nos territoires respectifs. Et donc, ces bidonvilles, un bidonville par essence même, c'est une zone de non-droit et la porte ouverte à toutes sortes de trafics. D'accord ? Donc à l'intérieur, c'est un petit peu l'anarchie. Sauf que derrière, vous avez des hommes, des femmes, des enfants qui vivent, qui aspirent à une vie meilleure. Mais comme c'est pas organisé, les gens sont laissés pour compte. Donc, il y a maintenant des désagréments dans la société qui font que, mais il y a des affrontements entre ces personnes qui sont livrées à elles-mêmes et les Mahorais d'un côté, j'ai envie de dire, et les Guyanais de l'autre, parce que l'État ne fait pas son travail. Je rappelle que la question migratoire, c'est une compétence strictement régalienne en l'occurrence, et l'État est défaillant sur le sujet. À plusieurs reprises, j'ai eu à intervenir, à alerter et à faire des propositions différenciées quant à la question de la gestion de cette immigration, qui en soi au départ n'est pas un problème. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour la gérer, pour l'organiser sur le territoire qui accueille ces personnes-là, effectivement, nous aurons des difficultés à intégrer toutes ces personnes-là dans la société parce que elles iront là où elles peuvent avoir malheureusement un toit de fortune pour pouvoir subsister. Et derrière, mais certains, malheureusement, je dis bien certains, donc c'est une minorité par rapport à la grande majorité, commettent des larcins pour vivre et pour boire et manger. Donc c'est malheureux à dire, c'est bien parce que nous ne sommes pas organisés en la matière pour faire face à cela. Et ça fait des années, on répète la même chose au service de l'État. Donc, Mayotte vote effectivement majorité RN. Ce n'est pas le choix qu'a fait la Guyane parce que nous, j'ai envie de dire, on a une réalité peut-être différente par rapport à la géographie. La Guyane est un territoire vaste et Mayotte est bien plus petit. La densité démographique n'est pas la même entre Mayotte et la Guyane. Donc peut-être que les réactions aussi au niveau de la population sont différentes. Néanmoins, le fond du problème est le même. Et donc, tant que l'État ne permettra pas d'avoir une meilleure gestion de ces vagues migratoires, de s'attaquer de façon humaine à cette réalité-là, nous en sortirons pas, ça c'est bien évident.
Et en même temps, vous suggérez, par exemple, de supprimer le droit du sol à Mayotte ?
Non. Mayotte a ses propres revendications sur le sujet. Moi, je ne partage pas forcément cela, puisque ce n'est pas le droit du sol qui fait que les gens viennent ou pas. On se méprend totalement. Lorsque la personne arrive chez vous, elle aspire à une vie meilleure, elle ne s'attend pas à avoir un intérêt particulier en arrivant sur ce sol-là. Juste mieux vivre et fuir la misère sociale d'un côté. Je donne quelques chiffres. Le plus gros flux migratoire au monde, aujourd'hui, il est intra-continent africain. D'accord ? Il n'est pas à l'extérieur du continent africain, il est à l'intérieur. Donc, les pays africains à l'intérieur du continent africain représentent les plus grands flux migratoires. Ensuite, si je prends le cas des États-Unis, donc pays occidental, qui accueille très forte vague migratoire chaque année. Aux États-Unis, vous n'avez droit à accès à rien du tout, il n'y a pas de droit du sol, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et pour autant, les gens y vont parce qu'il y a le rêve américain, parce qu'il y a une possibilité d'une meilleure vie, parce qu'il y a un certain nombre de choses derrière. Donc, cette lubie de faire croire que oui, c'est parce que il y a les acquis sociaux que les gens viennent, c'est parce que il y a effectivement le droit du sol, les gens viennent, c'est totalement faux et c'est totalement erroné. Les gens se trompent lourdement. À partir du moment où est-ce qu'il y a un espoir d'avoir une vie meilleure en arrivant sur un territoire, les gens viendront. Et donc, la France est un pays hexagonal, pays des droits de l'homme, d'accord? Donc, les gens se disent, ben, tiens, en arrivant sur le territoire français, j'aspire à avoir de meilleures vies. Mais paradoxalement, si je prends le cas de la Guyane, par exemple, vous voyez, il commence à y avoir un effet d'émigration du territoire guyanais. Pourquoi? Parce que vous avez les pays voisins qui, économiquement, ben, sont en train d'exploser. Je prends le cas du Guyana, ou le cas du Brésil aussi, où maintenant nous avons des communautés qui commencent à quitter le territoire guyanais parce qu'effectivement, la vie potentiellement pourrait être meilleure ailleurs. Donc, le fait de faire croire au monde entier que c'est si on va supprimer l'AME, on va la modifier, on va la transformer ou on va enlever le droit du sol, ça va changer quelque chose, c'est se tromper, mais extrêmement lourdement.
Davy Riemann, où trouver l'équilibre entre l'égalité réclamée par les habitants des Outre-mer et le besoin de plus d'autonomie en termes de décision ?
Mais ça, c'est territoire par territoire, j'ai envie de vous dire. Quand on lit le rapport, on voit bien que pour celles et ceux qui le liront, on voit bien qu'il y a, selon l'histoire du territoire, par rapport à la République française, les positionnements en matière d'autonomie ou pas sont différents. Donc, c'est bien territoire par territoire que la chose doit se faire. C'est bien pour ça que, en préconisation, nous disons simplement à l'État ou au gouvernement en place, qu'il va falloir qu'ils apprennent à écouter très sincèrement les velléités des uns des autres. Les territoires qui veulent évoluer institutionnellement, statutairement, que l'État écoute et que enclenche le processus. Donc pour les territoires, le processus est enclenché, il faut aller au bout. Et même, vous verrez bien que dans le rapport, il y a même des territoires qui disent que statutairement, ils n'ont pas besoin d'évoluer, mais pour autant, ils demandent des compétences particulières, comme par exemple la diplomatie, en l'occurrence pour la Réunion, pour qu'ils puissent rayonner dans son bassin géographique. Donc on voit bien que malgré le fait que certains ne veulent pas évoluer statutairement, il y a quand même des volontés de changement, de modification, d'évolution, parce que le droit tel qu'il est appliqué stricto sensu sur nos territoires ne correspond pas à nos réalités et ne permet pas d'avoir de meilleurs échanges avec nos pays voisins.
Et alors, dans ce rapport, vous rappelez que Wallis et Futuna constituent un exemple rare de cohabitation au sein d'une république de trois royaumes officiellement reconnus et en grande partie financés par elle. De nombreux Français s'étonneront de découvrir que la république respecte des traditions ancestrales sur ce territoire. Qu'est-ce que cela dit de notre république, selon vous ?
Mais écoutez, cette réalité-là vient automatiquement fracturer et nettement les personnes, les élus, les propos qui sont tenus par certains pour dire que la France est une et indivisible au sein de la République. Parce qu'on voit que selon le territoire, la réalité est tout autre. Là, effectivement, vous pointez le doigt sur une réalité qui fait que la France reconnaît, en tout cas à Wallis et Futuna, une réalité historique qui fait que il y a les rois qui sont sur place et donc ils sont rémunérés par l'État. Donc, ça veut bien dire que lorsque l'État veut prendre en compte une réalité sur le territoire, elle sait le faire. Donc, c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est que nos réalités soient prises en compte et que derrière, il y ait une application du droit différencié, il y ait une application du normatif qui soit différencié et surtout qu'il y ait une prise en compte de ces réalités-là dans la politique ou dans les politiques publiques validées par l'État, Mais sauf que pour la question de développement économique, social, au niveau de l'agriculture, toutes ces choses-là, on voit que nous sommes en très grande difficulté parce que toutes les décisions en matière de politique publique ne sont pas adaptées à nos réalités. Donc il y a un très très gros effort à faire de la part de l'État, il y a une prise de conscience à faire au niveau intrinsèque même de l'appareil étatique, parce qu'on voit bien que quels soient les gouvernements, la réalité est toujours restée similaire. Et donc l'évolution de la République, en mon sens, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter territoire par territoire, d'écouter les bassins de vie par rapport à ce qu'ils vivent. Et ce qui s'applique chez nous, où est-ce que les effets sont démultipliés, mais s'applique, j'ai envie de dire, automatiquement aussi, surtout, également à l'échelle de l'Hexagone, parce que vous avez des régions, des départements de l'Hexagone qui sont en grande difficulté aussi en matière de développement et en matière d'accès aux services publics. Donc, on voit bien que la réponse de la République doit être une meilleure écoute de nos concitoyens afin d'avoir une politique publique qui soit en phase avec les demandes initiées en tout état de cause.
Est-ce qu'il y a une solution au problème de la vie chère dans les territoires d'outre-mer ?
Bon, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Je rappelle, la vie chère, c'est l'héritage de l'ancien empire colonial où est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, tout est calibré, tout est orienté pour que les échanges aient lieu en grande majorité entre nos territoires et l'Hexagone, pour ne pas dire le continent européen. C'est une erreur fondamentale. On ne peut pas effectivement parler de développement économique en étant une telle réalité, parce que les coûts d'approche sont totalement différents. Même si, lorsqu'on voit des produits issus de l'agriculture arriver d'autres pays, d'autres continents que celui de l'Europe, sont des fois moins chers que des produits qui sont fabriqués sur le continent européen. Donc, faut se poser des questions. Néanmoins, on voit que la concentration aussi en matière de monopole, de duopole, d'oligopole dans la filière de la grande distribution, d'importation et autres, permettent aussi à ce que les prix s'envolent. Donc la réalité fait que, un, on doit s'orienter aussi sur nos bassins géographiques respectifs pour effectivement casser ce phénomène de distance et de transport pour des produits similaires. Ensuite, sur les produits qui sont affectionnés par les produits français dans certains de nos territoires affectionneraient particulièrement, eh bien, effectivement, il faudrait voir maintenant, sur les coûts d'approche de façon globale, qu'on change ce qui se fait aujourd'hui, parce que tout est concentré dans les mains d'un ou deux ou d'une grande minorité. Donc il faut revoir toutes ces choses-là. On ne peut pas perdurer de la sorte. Donc le système doit évoluer. Donc ce n'est pas en votant des lois ou en mettant en place des dispositifs tels que le bouclier qualité-prix. On voit que ça ne fonctionne pas, ça n'a pas permis d'empêcher à ce que les prix explosent. Donc on voit que le système tel qu'il est décliné aujourd'hui doit évoluer, et ce, il faut que l'État s'engage à engager les discussions pour cette évolution dans les plus brefs délais.
Merci Davy Riemann. Je rappelle que vous êtes député de Guyane et président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.